Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il nous embarque chaque jour de 16h à 18h sur Europe 1 avec son équipe, l'équipe est sauvage. Alors il y a Eva Rock, sa grande complice, et puis les journalistes d'Europe 1 engagés dans une compétition à l'issue de laquelle un seul est élu chroniqueur du jour. Chaque journaliste doit tenter de convaincre, de séduire l'invité de Mathieu Noël avec une bonne histoire, une info édifiante ou surprenante. Alors durant cette prochaine heure, on va retrouver la comédienne Sylvie Testu. Elle est à l'affiche d'une pièce de Marivaux. Anissa Mbida, notre monsieur innovation, s'intéressera aux fake voices. Fake voices. Alors, on savait qu'on pouvait manipuler une image. Bah, sachez qu'on peut le faire avec une voix. On évoquera aussi l'actu de Zep, l'auteur de Titeuf, qui vient de sortir le tome 2 de sa BD pour adultes Happy Sex. Et puis, l'actualité également d'André Manoukian, qu'on va retrouver tout de suite en face d'Ève Roger. Allez, place à la compétition.
Truculente chef du service société d'Europe 1, elle aime à nous rappeler parfois de grandes vérités.
C'est chez le poissonnier qu'on achète les moules.
Bien sûr, bon sens et investigation rigoureuse, telles sont les deux mamelles d'Ève Roger. Ève, avec quel sujet allez-vous asseoir aujourd'hui votre place sur le podium des meilleurs journalistes d'Europe ?
Eh bien, je voulais vous parler de dons de sperme parce que j'étais frappée par un chiffre. Il y en a 404 en 2017 et le nombre de donneurs potentiels, c'est 11 millions.
Très peu, 404.
11 millions sur tous les hommes entre 18 et 45 ans. Donc, c'est pas beaucoup. Alors, il y a un délai d'attente pour les couples qui attendent un don de sperme d'à peu près 6 mois à 12 mois. Et on en attend le double, puisqu'il va y avoir, grâce à la nouvelle loi, 2000 demandeurs en plus de couples de femmes et de femmes célibataires. Alors, je me suis demandé pourquoi il y avait...
Bah, tout à fait, pourquoi il y a si peu de dons?
Et voilà, c'est pour ça que je vais vous emmener dans la tête d'un de ces 404 donneurs. Il s'appelle Jérôme, il a 44 ans, il est prof de SVT. C'est pour ça qu'il dit qu'il est sensibilisé à la question de l'infertilité. Et puis, il a beaucoup d'amis homosexuels, m'a-t-il dit. Et il va d'abord nous expliquer que ce n'est pas très facile concrètement de donner son sperme. Imaginez-le dans un grand hôpital, dans un petit box avec un petit bocal.
En fait, c'est pas facile du tout de rentrer dans les bonnes conditions. C'est un peu austère, on est dans une cabine. Il faut beaucoup d'imagination. Oui.
Ça dure longtemps ?
Ça dure le temps que ça dure. Je sais pas, on n'est pas dans un état où on se chronomètre, mais...
Il y a des revues un peu porno, c'est vrai ou pas ?
Pas du tout.
Ah, y a rien ?
Non, y a rien. Y a rien, c'est une cabine. Il faut que ce soit le plus stérile possible. C'est pénible, en fait.
Votre étonnement.
Évidemment, André était à deux doigts de donner, et là, tout à coup, il apprend qu'il n'y a pas de revue porno. C'est quand même le seul intérêt.
Il n'y a plus de revue porno depuis qu'il existe Internet et YouPorn. Mais je me suis fait confirmer qu'effectivement, il y a une dizaine d'années, il y avait des revues porno, mais qu'il valait mieux arriver avec les siennes achetées au kiosque. Donc c'est difficile. Et puis la loi aussi va changer, ça ne va pas arranger les choses, puisque les donneurs vont maintenant devoir donner leur identité, et qu'à l'âge de 18 ans, l'enfant né du don va devoir venir. Et ce n'est pas évident quand on a donné simplement pour aider un couple qui n'arrivait pas à faire d'enfant. De façon anonyme, tranquille ou dans son coin. Et voilà que peut débarquer, vous l'avez vu dans le film, à 18 ans, des enfants.
Coucou papa.
En moyenne, il y a à peu près 2,5 enfants nés par un don de sperme. On va demander à Jérôme ce qu'il en pense, lui, de trouver des enfants à 18 ans.
Disons que ça amène une inquiétude. Quelle va être la relation? Est-ce qu'il va y avoir des obligations et des réclamations? Pourquoi est-ce qu'un enfant voudrait établir des liens ou des... Ça amène des questions, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'effectivement, un enfant qui est issu d'un don peut légitimement se poser cette question et que c'est bien de lui apporter des réponses.
Alors, vous entendez, lui, il est plutôt d'accord. Moi, je ne suis pas allée très loin ce week-end pour mener mon enquête, puisque j'ai demandé à mon mari, qui a donné son sperme il y a une dizaine d'années. Et on a passé tout le week-end à en discuter. Parce que lui, il est possible, il peut aller s'inscrire dans une commission pour rentrer en contact avec les enfants. Et on a beaucoup réfléchi. Donc, il a dit, OK, je vais m'inscrire à cette commission, mais dans 5 ou 8 ans, pour le temps que les enfants aient effectivement 18 ans. Donc, ce n'est pas une réponse facile.
Alors, comment on pourrait faire pour augmenter le nombre de donneurs?
Et ben en fait, à l'étranger, comment ils ont fait? Et ben ils payent. Ils payent le don. En France, le don est gratuit. Au Danemark, c'est entre 33 et 66 euros le don.
Comme le don d'ovocytes, hein, si je ne me trompe pas, c'est pareil.
C'est pareil. Tous les dons d'organes en France sont gratuits.
En fonction des capacités de la personne, c'est plus ou moins cher. Alors, si André veut donner, ça va coûter plus cher que si moi je donne, par exemple. Il y a plus de femmes intéressées pour avoir un enfant d'André Manoukian.
André aura le même argent, mais son sperme sera vendu plus cher. Absolument.
Ça, c'est dégueulasse.
Si, enfin, en France, il n'en est pas question. Au Danemark, c'est comme ça. Vous avez un très bon sperme, il est vendu plus cher qu'un sperme un peu moins mobile.
Mais comment vous savez, vous, par exemple? que j'ai un très bon sperme.
Elle sait tout.
C'est dingue.
Eh bien, je suis allée à l'hôpital, j'ai demandé.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Oui, Mathieu Noël, entouré bien sûr de sa complice Eva Rock et d'un invité, toujours, on va retrouver ici l'auteur suisse Zep, qui sort Happy Sex 2 aux éditions Delcourt, une BD de 60 planches, interdite aux moins de 18 ans, un album et une galerie de personnages dans des situations assez cocasses, bref, un album d'humour pour les grands.
On vous connaît évidemment pour votre saga majeure, celle de Titeuf. Vous ne croyez pas qu'il y ait une petite confusion avec ce dernier album Happy Sex réservé aux adultes, genre que des enfants le mettent subrepticement dans le caddie parce qu'ils se disent « ça va être sympa, c'est le même auteur que Titeuf » et que ça place ensuite les parents en fâcheuse posture.
Bah c'est pour ça que l'album est emballé en fait. Et, oui. Vous avez enlevé l'emballage, mais dans les magasins, il est un peu sécurisé.
Oui, mais voilà. Là, il est déjà un peu sécurisé parce que si on ouvre là, par exemple, bon, heureusement la caméra est loin, mais disons que c'est un peu plus coquinou.
C'est plus coquinou, ouais. Non, mais j'ai souvent des plaintes d'enfants en fait en dédicace qui me disent ah, pourquoi nous on peut pas avoir un pissex. Je dis le titre vous explique un peu pourquoi vous n'avez pas le droit. Mais pour moi ce qui est important c'est que ils savent que ça existe
et dès qu'ils auront l'âge ils l'achèteront.
Voilà, gardez l'idée que
économisez, mettez dans votre tirelire.
Non mais ce que je leur dit, c'est que c'est plus drôle à partir du moment où on a une vie sexuelle.
C'est
après,
vrai.
S'ils le voient enfant, bon, c'est pas dramatique. Mais... non, c'est encore plus drôle si la vie est ratée, justement.
C'est vrai, je dis les autres s'amusent, pas nous.
Alors aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît Titeuf, mais tout le monde connaît-il Zep ? On est allé vérifier dans la rue. Voici non pas un micro-trottoir, mais pire, un micro-trottrash. Comme un micro-trotte, mais pas monté. On a tout laissé.
Zep ? Zep, c'est qui ça ? Ah oui, Titeuf ! Avec Nadia ! Oui !
La Zep ? Non. Qui est Zep ?
Ah si ! Voilà, dessinateur, oui, je vois un peu.
Titeuf, c'est pas un humoriste ? Non, pas du tout. Il y avait un humoriste qui s'appelait Titeuf aussi.
Le petit bonhomme avec sa petite plume, queue, je sais pas, sur la tête.
Absex.
Happy Sex.
Ah, pardon, excusez-moi. Moi, je suis pas pour...
Oui, lui, il est pas branché, moi, oui.
Titeuf, c'est trop vulgaire. Je trouve ça... On devrait pas mettre ça à nos enfants.
Ça va plaire à mes enfants, alors. Happy Sex. Non, j'ai un ado. Il lit plus Titeuf, mais... Pourquoi pas Happy Sex, ouais.
Bah, je sais pas, faut mettre ces trucs-là dans un sex shop, moi, je sais pas.
Ils sont sur YouPorn toute la journée, donc Happy Sex, je pense pas que ce soit très gênant.
C'est vrai.
Alors, il n'y a pas de problème, Zep est une marque visiblement très connue, mais il y a cette réflexion étonnante d'une jeune femme, peut-être même une ado, peut-être même une enfant d'ailleurs, qui dit que Titeuf, c'est un peu choquant pour les enfants. Et c'est étonnant, ça, vous avez des retours là-dessus ? Parce que Titeuf, c'est, bon, c'est, effectivement, c'est décomplexé, mais c'est quand même à mettre dans toutes les mains.
Peut-être que sa maman était à côté d'elle aussi.
Ah, elle a certainement menti. Mais, Eva, pardon.
Est-ce qu'il y a des pays où vous ne pouvez pas sortir l'album parce que trop pornographique ?
Ah ouais, Happy Sex sort dans assez peu de pays.
Oui, je crois qu'en Arabie Saoudite, il n'est pas distribué.
Même dans les pays latins, c'est pas édité. Hein. Aux États-Unis, complètement impossible d'éditer Happy Sex. Au Japon, évidemment, pas possible du tout. Non. Par rapport à Titeuf, qui est traduit, lui, dans, je sais pas, 35 pays, quelque chose comme ça. Happy Sex, ça doit être 4 ou 5 traductions maximum.
Ouais. Oui, on en reste sans voix.
Ah non, mais j'en reste sans voix, c'est vrai parce que je ne pensais pas, en vous posant la question, que vous alliez me dire ça. Enfin, j'imaginais...
Après, ça dépend, parce qu'il y a des éditeurs qui le font quand même, mais voilà, on ne sait jamais. Ce sont chaque fois des éditeurs étrangers qui sollicitent les droits d'un album pour l'éditer chez eux. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Et il y a des choses étonnantes. Par exemple, le guide du zizi sexuel qui pose beaucoup plus de problèmes que Happy Sex. Hein, parce que Happy Sex, c'est un livre pour adultes. Voilà, donc, a priori, on se dit, bon, what the fuck. Enfin, les gens le lisent s'ils veulent, mais s'ils ne veulent pas. Tandis qu'à partir du moment où on parle de sexualité et qu'on s'adresse à des enfants, alors là, on soulève des peurs incroyables. Il y a tout de suite des levées de boucliers partout. Il y en a eu en France énormément.
Oui, au moment de l'exposition.
L'exposition de la Cité des Sciences, chaque fois qu'elle a été réouverte, il y a eu des comités qui tentaient de la faire interdire. Alors que, bon, voilà, mais. Et la grosse surprise, c'était l'année passée avec Bolsonaro, donc le président brésilien, dans sa présidence,
qui vous a
pendant
rendu
la présidentielle, voilà, qui est invité aux 20h juste avant le dernier tour et qui brandit le guide en disant qu'il faut le faire interdire. Alors que c'est quand même fou que au dernier moment de sa campagne. Ce qu'il pense à dire, c'est qu'il faut faire interdire le guide sexuel.
C'est, quoi, c'est la priorité socio-économique au Brésil.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Oui, l'équipe est sauvage, c'est votre rendez-vous quotidien de l'après-midi pour se détendre ou s'informer. Enfin, en même temps, voilà. On se détend et on s'informe en même temps. C'est du lundi au vendredi, donc de 16h à 18h, séance de rattrapage le week-end. Et voici maintenant Délis in extremis autour de Mathieu Noël. Il y a toujours Eva Rock et maintenant Olivier Pouls.
Olivier Pouls, malgré un freinage d'urgence de dernière minute quand il a vu le panneau CSA clignoter devant lui, mais hélas, il était déjà trop tard.
Je vous proposais de faire du riz sauté. C'est un plat qu'on trouve dans toute l'Asie avec autant de versions pratiquement que d'asiatiques, c'est dire.
C'est presque raciste.
Mais non, mais pas du tout. Bon, ils sont nombreux. C'est pas moi qui ai inventé qu'il y ait 1 milliard 400 millions de Chinois quand même.
Ils sont nombreux. C'est pas moi qui l'ai inventé. Aujourd'hui, dans Délices in Extremis, votre recette de dernière minute pour bluffer vos proches, les crêpes de pommes de terre. Et arrêtez-moi si je me trompe, Olivier. Mais il y a quasiment autant de crêpes de pommes de terre qu'il y a de Bretons. Oui. On peut le dire.
Mais ils sont moins nombreux.
Ils sont moins nombreux.
Mais alors, détrompez-vous.
Comment
pas
ça
de chance, j'ai décidé de reporter mes crêpes de pommes de terre à demain parce que ce matin, en me levant, en lisant une interview que Sylvie Testu avait donnée il y a quelques années au Monde, je crois.
Genre, il bosse.
J'ai lu que vous étiez dingue de fromage et qu'à une époque de votre vie, vous ne vous nourrissiez pratiquement que de fromage.
Oui, c'est vrai. Oui, et même ma mère m'avait conduite chez le pédiatre qui m'a dit bon, bah, essaye de lui donner une banane, elle aura à peu près tout. Moi, j'ai donc du camembert et des bananes. Sympa. Et puis, j'aime plus les bananes.
Mais par contre, le camembert, oui.
Ah oui. Ah oui.
Et donc, je me suis dit, paf réactivité, faisons une recette avec
vous
du fromage.
Vous êtes dit, paf réactivité.
Exactement.
C'est intéressant comme phrase.
Et tout de
bien
suite,
construit.
Donc, j'ai imaginé cette recette de camembert, rien que pour vous. Tiens.
Alors, c'est quoi?
Quelle merveille.
Un feuilleté de camembert.
Oui. Mais vous auriez pu le faire. Ça aurait été encore mieux.
J'ai failli, mais le temps m'a manqué. Mais franchement, j'étais à deux doigts.
Alors,
la prochaine fois.
Faites-nous saliver.
Donc, il vous faut pour ça un beau camembert, mais on est d'accord. On ne parle que de camembert au lait cru,
évidemment. Oui,
tous les autres, les camemberts au lait pasteurisés, industriels,
oui,
etc.,
voilà.
On s'en débarrasse.
On les donne à nos enfants.
Aux Américains.
Ça passe.
Laissons-les aux Américains. Ou aux Chinois.
C'est écrit bio en énorme. Ça n'a pas de goût, mais ils adorent.
C'est vrai qu'ils sont particulièrement dégueulasses, les camemberts bio. Là.
Les industriels,
certaines marques industrielles.
Ils sont bio, mais ils sont
au lait pasteurisé. Bio qui sont bons. Mais il y en a d'autres, oui, voilà.
Bon, un bon camembert.
On commence à
c'est
s'engueuler.
Quand même la base. Une pâte feuilletée. Alors, quelques oignons, enfin un bel oignon, quelques lardons, une pomme de terre, un tout petit peu de thym et un œuf.
J'aime déjà tout.
Voilà. Bah, alors, on va faire tout simplement une petite fricassée avec nos oignons émincés qu'on va faire revenir dans un peu de beurre. On va rajouter nos lardons et on va à côté de ça cuire nos pommes de terre qu'on aura au préalable épluchées.
Quel type de pommes de terre, Paul?
Moi, j'aime bien les petites rates. Ah. Voilà, des rates, parce que ça, c'est une pomme de terre à chair ferme.
On va vous laisser tous les deux.
Et ensuite, on va prendre notre camembert, on va le couper en deux dans le sens de la hauteur et on va farcir notre camembert avec des rondelles de pommes de terre et ensuite nos petits lardons avec les oignons qui vont...
Ah la vache.
Et on repose l'autre moitié du camembert, on prend la pâte feuilletée et hop, on emballe le tout.
Hein, tout simplement, on fait 500 000 calories à la bouchée.
Bah oui, l'œuf battu avec un pinceau, ah oui, on va venir peindre le dessus de notre camembert pour lui donner une belle couleur dorée. On le met au four à 180 degrés.
Quand on a le talent.
Il sera très éphémère.
C'est vrai.
Parce qu'il ne résistera pas aux 180 degrés et les 20 minutes de four. Après, il n'y a plus qu'à découper le camembert écoulant. Oh. Vous avez les pommes de terre, la pâte feuilletée. Est-ce que j'ai bien fait de changer d'avis ce matin?
Ah bah oui, vous avez bien fait de ne pas la porter, parce que parler la bouche pleine à la radio, ça n'aurait pas été top.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Et oui, Mathieu Noël, toujours très bien entouré. Eva Rock, les journalistes d'Europe 1 en compétition. Ils nous donnent tous rendez-vous chaque après-midi de 16h à 18h sur Europe 1. Il y a toujours un invité aussi qui joue les arbitres. Et on va retrouver à présent André Manoukian, le compositeur, invité à nous parler de son spectacle Le Chant du Périnée au Théâtre de l'Œuvre à Paris. C'est à partir du 7 octobre.
Alors, André Manoukian, le spectacle Chant du Périnée, vous nous avez expliqué l'origine de ce titre, hein, parce que pour bien chanter, il faut que ça parte de très très loin, on a compris.
Exactement.
Du Périnée. Et c'est surtout une balade musicale dans l'histoire de la musique avec des anecdotes. Par exemple, Eva, saviez-vous que le micro-sillon fut inventé en 3000 avant Jésus-Christ dans une pyramide égyptienne?
Absolument pas.
Que l'expression con comme un ténor est justifiée par les lois de l'acoustique?
Ah, mais ça, je veux bien l'histoire de con comme un ténor.
Ah, con comme un ténor, ça vous intéresse?
Oui,
vous
André Manoukian.
Vous payez votre place au Théâtre de l'Œuvre.
Ça
veut juste dire que pour chanter correctement, il faut considérer sa tête comme une caisse de résonance. Nous, le français, par exemple, on est un peu handicapé parce que notre langue ne fait marcher que trois petits muscles autour de la bouche. Maintenant, si je chante, si je parle canadien, tout d'un coup, et là, j'ai tout mon visage qui résonne. Et tout d'un coup, et sans forcer la voix, j'ai su beaucoup plus fort que ça.
C'est pour ça. D'où Céline Dion.
D'où, exactement, d'où beaucoup plus de chanteuses casse-couilles au Québec qu'en France. Donc, pour bien chanter, il faut se servir des résonateurs, de ses joues, de son front, de sa gorge, et surtout se vider la tête. Donc, en fait, l'expression « con comme un ténor », ça veut dire « si tu réfléchis pendant que tu chantes, t'es mort ». Donc, il ne faut pas penser. Ne pense pas et chante, voilà.
Vous nous racontez aussi les grands noms de la musique. Vous nous racontez Mozart, le petit Mozart. Il était vraiment si prodigieux que ça? On dit qu'à 3 ans, il écrivait déjà, c'est vrai ça?
Alors, en fait, il a été éduqué par son père. Donc, tout d'un coup, la musique, et c'est pour ça que je m'insurge un peu contre l'enseignement rébarbatif du solfège qui ça juste dégoûte les enfants de, je dirais, de la musique. C'est comme si vous disiez à votre bébé qui vient de naître, tu n'as pas le droit de parler tant que tu ne sauras pas lire ni écrire. Or, à cette époque-là, l'époque de Mozart, la musique était beaucoup plus naturel, donc son père va lui enseigner le clavecin et le violon. Simplement, il lui dit un truc, le clavecin, t'as pas le droit d'en jouer quand je suis pas là parce que ça se désaccorde, c'est super fragile, c'est très cher. Un jour, qu'il rentre chez lui, papa Léopold, il entend le petit Mozart qui joue le clavecin. Il est furieux, il va pour le taper. C'était l'époque où on avait le droit de donner des baffes à nos gamins. Et il dit, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais interdit. Et là, le petit Mozart lui répond cette phrase formidable. Il lui dit, je cherchais les notes qui s'aiment. Et ça, c'est la plus belle définition de la musique. Il y a des notes qui sont attirées les unes vers les autres. Et puis d'autres qui s'aiment un tout petit peu moins.
C'est quoi les notes qui sont attirées les unes vers les
voilà,
autres?
C'est le fa qui va vers le si.
Ah oui. Et puis on dirait qu'il lui monte dessus,
si
presque, c'est bon.
Qui va vers le do. Et ensuite, on dit beaucoup de choses avec la musique. Par exemple, ça, c'est pas Mozart, c'est Beethoven. Et là, vous sentez comment il est en train de regarder une meuf. Et comment il n'en peut plus. Et il n'a qu'une seule envie, c'est de lui faire ça.
Oh. On s'y croirait.
Et ça, c'est la lettre à Élise. Et justement, il y a un gros contresens.
Et oui.
Eh bien oui, ce morceau, ce n'est pas du tout la lettre à Élise. En fait, le manuscrit de cette partition a été découvert 50 ans après la mort de Beethoven par un gars, et c'est écrit dessus « Fur ». Et puis, il y a une tache de je ne sais pas quoi, et « S-E ». Ça finit par « S-E ». Donc le mec, lui qui a découvert cette partition, était amoureux fou d'une Élise. Donc il dit « Fur, Élise ». Vous savez comment elle s'appelait, la meuf que Beethoven voulait se faire et qui s'est jamais
Fernande.
Fait ? Thérèse.
Ah, ah oui. Fur Thérèse.
Thérèse Amalfi, c'est une chanteuse, il était amoureux fou d'elle. Tout ce que je veux dire dans ce spectacle, c'est que tous les compositeurs sont redingues d'amour et que la musique, c'est à la fois de la spiritualité et du sexe.
Et vous dites aussi que tous les plus grands compositeurs se prenaient beaucoup de râteaux et c'est pour ça qu'ils composaient si bien.
Exactement, ça,
Chopin,
c'est une source d'information. Chopin
ou... Oui, il a pécho Chopin. Il a pécho Roger Chopin.
Mais par exemple, Wagner, il invente la cadence de, je dirais, de musique de film parce qu'il n'arrive pas à se faire la femme de son sponsor. Il exagère aussi. Quoi. Donc il dit, puisque je ne peux pas conclure, je ne conclue pas la cadence. Voilà.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Le moment est venu, André, de se retrousser les manches, car voici notre quiz. Et juste avant l'émission, Eva m'a confié, je cite, « Mathieu, fais-moi un quiz sur la musique, je vais le piler l'arménien ». Ce sont ces mots, ce sont ces mots qu'elle a utilisés. Alors d'accord, faisons un quiz sur la musique, puisque vous êtes si forte. C'est un vrai faux, vous répondez chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point. André Manoukian, en 1980, Renault sort Marshallon.
Et je lui dis, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien.
7 ans après, c'est le jeu vidéo Marshallon qui sort, vrai ou faux?
Le jeu vidéo 7 ans après, putain, je connais rien en jeu vidéo, je vais dire vrai.
Et banco, on pouvait y jouer sur Amstrad, Atari, Commodore. Dans le jeu vidéo, il fallait amener sa copine à un concert de Renault et se battre contre des blousons noirs.
Mais non.
Et vous savez quoi? Voici la musique du jeu. Est-ce qu'elle a été validée par Renault, cette musique? Et marche à l'ombre. C'est génial. Eva Rock, sur le titre Hey Jude, Ringo Starr ne joue qu'au début du troisième couplet, car pendant l'enregistrement, il était aux toilettes. Vrai ou faux?
Mon Dieu, c'est horrible.
Imaginez Ringo.
Oui.
Faisait-il la petite ou la grande? On ne sait pas, mais
ouais.
Il
et
était aux toilettes.
Et je vais dire vrai.
Vous dites vrai,
ouais.
Et vous avez raison. McCartney a raconté dans son autobiographie qu'ils avaient commencé à jouer. Paul pensait que Ringo était en place, alors que pas du tout. Quand il est passé dans son dos en silence et a commencé à jouer, tout le monde a trouvé que le timing était parfait. Vous gardez la prise.
Non, c'est pas ce qu'il faisait en attendant.
Ah, il ne l'a pas dit. Ce n'est pas dans l'autobiographie, c'est sa tête dans celle de Ringo Starr. Attention, une question, trois propositions. Vous répondez ensemble. Voici Aerosmith. Le chanteur Steven Tyler est connu pour avoir abusé de multiples drogues. Du coup, il n'avait pas toujours les idées très claires. Que s'est-il passé durant un enregistrement en studio ? Trois propositions. 1. Il a fallu annuler 2 jours de studio car il se prenait pour une chauve-souris. 2. Il a exigé de prendre un bain de lait d'ânesse avant d'enregistrer sa chanson Cléopâtre. Ou 3. Il a insisté pour faire la reprise d'un titre qu'il avait entendu à la radio. Tout le monde a tenté de lui expliquer que c'était un titre d'Aerosmith.
Ah, moi j'adore celle-là.
Moi j'aime bien celle-là, même si c'est.
Ouais, ah oui, pareil. Ouais,
ouais, vous dites réponse 3
ouais. Oui.
Bah vous êtes fous, là c'est une chanson d'Aerosmith.
Bah oui, mais quand même.
Mais oui. Il a entendu toutes ces chansons, il a dit on va faire ça les gars. Ça c'est bon, Coco. Et il a essayé de lui expliquer que bah, en fait il l'avait déjà chanté. Ils seront en concert demain soir à Las Vegas, Aerosmith. J'ai mes billets pour le concert et mes billets d'avion. Au diable, le bilan carbone, j'ai envie d'y aller. Eva Rock, Albignoni n'a pas composé l'adagio d'Albignoni, vrai ou faux? Ne faites pas cette moue.
J'en sais rien du tout.
C'est le principe d'un quiz.
Oui, je sais bien. Enfin, je sais pas, non.
Bah, donnez une réponse.
Alors, mais attendez, parce qu'il y a 2 négations dans votre phrase. Donc, ici,
Albignoni oui. N'a pas composé l'adagio d'Albignoni.
Non, mais
il n'y a qu'une seule négation, finalement.
Oui, non, mais parce que si je dis faux, ça fait 2, donc je dirais faux.
Bon, j'ai rien compris ce que vous m'avez dit, mais en tout cas, c'était vrai. Il a bien été composé et déposé par Remo Gazzotto en tant qu'œuvre originale, même si de son propre aveu, il s'est inspiré d'un fragment d'une sonate d'Albignoni découvert dans les ruines de la bibliothèque de Dresde en Allemagne, dû au bombardement allié en 1945. Un peu d'adagio. Attention, cette question va vous départager. André Manoukian, autre grande musique, Docteur Alban. Ça, c'était sur la compilation Dance 93.
Après l'adagio.
Il se faisait appeler docteur parce que c'était vraiment un docteur, vrai ou faux?
Faux.
Et non, c'était vrai. Oh, né au Nigeria, putain. Il a été chirurgien dentiste en Suède avant son tube. C'est Galéluia. Égalité entre
mais
nos
oui,
deux compétiteurs
oui.
Aujourd'hui. J'aime bien quand ça mais se finit oui. Dans l'égalité. Comme ça, mais tout le oui. Monde s'embrasse et tout le monde est heureux.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Et oui, Mathieu Noël qui chaque après-midi réunit autour de lui les journalistes d'Europe 1 pour une compétition avec en jeu le titre de chroniqueur du jour. Tout le monde peut voter, mais seulement en semaine. La compétition continue. Donc, avec Mathieu Noël, Eva Rock et le sujet d'Anissé Mbida.
Collègue hier, ennemi farouche aujourd'hui, chacun cherche à marquer son territoire.
Ça c'est mon espace de danse et ça c'est ton espace de danse. Je n'envahis pas ton espace, tu n'envahis pas mon espace, ok?
Une compétition où tous les coups sont permis, des cas de dopage au Viaronzan, un tiers Viagra, 2 tiers Guronzan, auraient été enregistrés.
Non pas une, mais 3 pilules.
Qu'avez-vous Anissé Mbida? Vous êtes l'expert innovation d'Europe 1 et cet après-midi, vous nous parlez donc des deepfakes, non pas vidéo, mais audio, c'est
oui,
ça?
Oui, parce que l'heure est grave, hein. On avait déjà pris l'habitude de plus croire ce qu'on voit sur un Instagram, parce que tout le monde peut retoucher facilement une photo avec toutes les applis.
Oui, moi, je vous trouve beaucoup trop musclé sur Instagram. À mon avis, c'est, tout ça, c'est fake.
Et maintenant, on va pouvoir faire la même chose avec les messages vocaux. Imaginez, vous recevez un message sur WhatsApp. Maintenant, on reçoit beaucoup de messages audio sur WhatsApp. On va prendre un exemple. Alors, c'est en anglais, parce que c'est une technologie qui est américaine. On va écouter un message sur WhatsApp.
Very early in my life, I separated from my mother.
Donc, très tôt dans ma vie, je me suis séparé de ma mère. Sauf qu'après coup, on se dit, bah, finalement...
C'est très étonnant,
bien...
psychologiquement. Non. À mon avis, Freud aurait beaucoup de choses à dire là-dessus.
Mais justement, donc on va la préciser cette phrase parce que c'était quand j'étais enfant, je me suis persuadé quand j'étais enfant, et donc on va rajouter as a child. Donc on va dans un petit traitement de texte et on ajoute as a child.
Very early in my life as a child, I separated from my mother.
Ah oui. Alors ce sont des mots qui n'ont jamais été prononcés par la personne. En fait, c'est une intelligence artificielle qui a récupéré les mots de la personne, qui a fait tout un mélange et qui est capable de lui faire dire n'importe quoi avec exactement le même timbre. Alors là où ça peut vous intéresser, Rose, c'est que ça peut aussi fonctionner sur le timbre de la voix. Donc on est capable de changer l'intonation de la personne. On va prendre un exemple avec une voix de femme.
We leave the eventuality to time and believe. 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 Believe.
Donc on peut prendre le fameux believe et changer son intonation, changer son timbre a posteriori. Pas besoin de retourner
et c'est
en studio.
Très subtil en plus.
Pas besoin de ramener les invités en studio. On peut leur faire dire n'importe quoi, changer l'émotion, changer l'intonation du texte et d'avoir. Et donc ça fait un petit peu froid dans le dos.
Bah, il y a surtout d'énormes risques de manipulation. Là.
Oui, parce que, ceux qui ont fait ce logiciel ont mis des garde-fous quand même pour éviter que tout le monde l'utilise à tort et à travers. Donc pour pouvoir enregistrer la voix de quelqu'un, faire dire n'importe quoi à n'importe qui, il va falloir que la personne soit là en direct et qu'elle enregistre en direct dans cette application. Et on vérifie bien que c'est la même voix qui est là et on lui fait prononcer des phrases au hasard. Mais c'est une technologie qui a déjà été utilisée par des pirates, vous parlez des hackers russes.
Bien sûr.
Là, on ne sait pas d'où ils viennent, mais c'est des gens qui ont détourné 800 000 euros à une banque en faisant croire, faisant passer pour le PDG, en disant qu'il faut absolument cuire 800 000 euros d'un tel compte, et la personne s'est exécutée parce qu'elle pensait qu'elle parlait à son chef.
Ah bah évidemment, donc, si on a la voix de son patron.
Donc, attention, méfiez-vous. On se méfie déjà de ce qu'on voit, méfiez-vous de ce que vous entendez. Mais je crois qu'on est en bonne école aujourd'hui avec Mathieu Noël, puisque il faut surtout pas.
Au moins, je vous aurais appris ça. Je vous aurais appris à vous méfier de tout ce que vous entendez. Eva Rock.
Mais quel est l'intérêt alors d'avoir un tel logiciel pour modifier les voix en fait?
Typiquement pour les podcasts. Souvent, on fait des podcasts, on n'a pas envie de ramener les invités en studio. Il faut qu'on s'est trompé sur un mot, on s'est trompé sur une virgule ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour que la personne qui a enregistré son podcast puisse faire des modifications et elle peut le faire avec un traitement de texte. Mais en studio, c'est compliqué de parfois de faire revenir un invité juste pour changer un mot.
Ça vient de m'arriver, un enregistrement. Non, mais j'ai fini une phrase en l'air, vous savez quand on fait. Oui. Et donc voilà, et puis voilà. Non, il va falloir revenir pour faire nanananana. Là, ça serait pas revenu.
Exactement. Donc voilà le type d'usage de ce genre de choses en dehors des pirates russes, évidemment.
Merci beaucoup, Anis Mbida. Vous n'y couperez pas non plus. Voici la question vache d'Axel de Tarlé.
Question un peu tirée par les cheveux, j'avoue. Imiter une voix, c'est vieux comme les imitateurs. Donc moi, je me souviens, dans les années 70 et les années 80, les comiques imitaient. Et alors, on imitait beaucoup à l'époque Georges Marchais. Et donc, j'ai une question... années 80, qui imitait Georges Marchais en lui faisant dire à Jean-Pierre Elkabbach « Taisez-vous, Elkabbach ».
Je pense que dans les années 80, c'était que le Luron, c'est ça ?
Eh bien, tout le monde croit que c'est
le Luron,
mais ce n'est pas le Luron.
Ah, moi, je suis sûr que c'était le Luron.
C'est Pierre Douglas. En fait, vous c'était un débat entre le Luron et Pierre Douglas. Et le Luron imitait Raymond Barre et Pierre Douglas imitait Georges Marchais, disant à Elkabbach Taisez-vous,
le fameux Taisez-vous, Elkabbach,
c'est donc d'abord Georges Marchais ne l'a jamais dit et c'est Pierre Douglas. Alors juste pour le fun, je vous ai retrouvé ce petit extrait. C'est le vrai Georges Marchais. Alors pour le coup, c'est la vraie télé s'adressant au vrai Jean-Pierre Elkabbach. Écoutez, c'est gratiné.
Écoutez, Elkabbach, c'est, je crois, une soirée suffisamment sérieuse. Si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable puisque la droite, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite et je vais ailleurs. On me demande ailleurs, je peux y aller. Parce que c'est extrêmement désagréable de discuter avec vous. Je crois que des syndicats ont raison de protester contre le fait que l'information avec vous sur Antenne 2 a du mal à s'exprimer.
Mais on dirait les faux.
C'est extraordinaire.
Ah ouais, on dirait le Luron et Pierre
Douglas. C'est plus vrai que le vrai.
Ah, c'était encore plus drôle en vrai. Ouais.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est votre rendez-vous bonne humeur de l'après-midi. Oui, tous les jours, du lundi au dimanche. Le week-end, c'est vrai, c'est la séance du rattrapage. Alors, elle était invitée cette semaine à nous parler de son actu théâtre. C'est la comédienne Sylvie Testu. Elle joue dans une pièce de Marivaux, dont les thèmes sont très actuels d'ailleurs. Il est question de liberté des femmes et de l'infidélité.
Sylvie, vous êtes actuellement à l'affiche de l'heureux stratagème de Marivaux au Théâtre Édouard VII à Paris. La pièce a été écrite en 1733. Comment Ladislas Chola, le metteur en scène, a-t-il fait pour la mettre au goût du jour? Car c'est le cas.
Il a inventé beaucoup de violences dans les rapports que nous, on soulève pour en faire une comédie. Mais de toute façon, le texte est déjà drôle parce qu'il s'oppose entre une personne qui demande quelque chose et quelque chose qui lui refuse. Quelqu'un qui assène une vérité et quelqu'un qui lui prouve le contraire, déjà, de toute façon, c'est drôle. Donc lui, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup insisté sur les rapports, par exemple, avec la marquise, avec Suzanne Clément. Il a voulu que ce soit un combat. Mais presque, on parlait de masculinité tout à l'heure avec votre documentaire, mais c'est presque comme ça. On est toutes les deux à un moment d'un côté, chacune d'un côté du feu, et on se déclare une guerre ouverte. Et moi d'ailleurs, je lui dis, je ne combats qu'à cette condition-là. Et là, elle s'en va, on dit, ah, je serai plus forte que toi. Parce que c'est vrai, les rapports amoureux, c'est pas toujours que de la tendresse. Il y a un peu une prise de pouvoir de l'un sur l'autre, même si on s'en défend.
Sylvie Testu, on se connaît pas, mais j'ai l'impression que c'est jubilatoire ce rôle, et que... Quelque part, des acteurs en promo, on en a beaucoup, mais j'ai l'impression que, comme disent les jeunes, vous kiffez la pièce, mais assez veu gras. Oui, je suis jeune, moi aussi. Oui, oui.
Bon, alors, comme je dirais à mes enfants, là, il y avait beaucoup de gros mots dans la même phrase. Un par phrase, ça me va. Deux sur quatre mots, ça me fait beaucoup.
Alors, Sylvie Testu, bientôt, on va vous retrouver au cinéma aussi dans un film. On parlait de Michel Denisot, mais vous êtes aussi dans un autre film qui arrive, le nouveau James Hutt, réalisateur des Brises de Nice. Ça s'appellera Rendez-vous chez les Malawas. Ça sonne très bien, hein, ouais. Rendez-vous chez les Malawas, c'est une sorte de parodie de Rendez-vous en terre inconnue.
Oui, c'est une parodie de ce genre d'émission, sauf qu'à la place d'une seule personne, on en invite quatre. Quatre personnes qui ont un égo un peu surdimensionné. Je ne sais pas pourquoi on a fait appel à moi. Et donc ces quatre personnes partent en imaginant en fait, que tout est truqué et qu'ils vont dormir dans des grands hôtels, que tout va être bien. Quoi.
Ah oui, quatre stars, comme
et
on
les imagine. Et en fait, ils partent réellement comme on part. Moi qui ai participé à cette émission, je peux vous dire que quand on vous filme en train de dormir par terre, vous avez vraiment dormi par terre. Vous ne sortez pas d'un 5 étoiles.
Hein. Vous l'avez fait, rendez-vous interconnu, mais vous êtes parti où ?
Je l'ai fait au Tchad.
Vous êtes bien comporté avec les locaux.
Ben j'espère.
quel souvenir vous en gardez de cette expérience ?
Un souvenir sublime. En revanche, moi j'étais un peu angoissée au départ. C'est ce que j'avais dit un peu à la production et à Frédéric Lopez. J'avais dit, écoute, il me semble que je suis avenante, mais je n'ai pas été éduquée à me transformer au profit de l'autre. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas dire, oh les petits enfants, j'y arriverai pas. Et en fait, ils m'ont emmenée dans le désert. D'abord, je ne connaissais pas le désert, parce que moi, j'ai pas mal voyagé quand même. Et avec des gens surtout hyper forts, quoi. Donc en fait, il y avait une dame qui était là, qui était un peu la même que moi, mais c'était une Africaine, quoi. On rigolait des mêmes trucs. Mais c'en était troublant. C'en était assez étonnant, quoi. Donc c'est vrai que j'ai vécu un bon moment. Il vous faut 2 jours quand même pour accepter.
Oui.
Quasiment tous les acteurs, toutes les actrices qui ont fait cette émission reviennent changer. En tout cas, ils ont vécu tous un grand moment. Bruno Solo nous en a parlé aussi.
Oui.
C'est toujours un grand moment.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Ce moment où notre invitée, aujourd'hui la comédienne Sylvie Testu, actuellement à l'affiche du théâtre Édouard VII, affronte l'équivalent européen du Père Fouras, Eva Rock. Sylvie Testu, tous les jours, un quiz oppose notre invitée à Eva. Et aujourd'hui, je pense que vous partez avec un sérieux avantage, car le thème, c'est le couple, en hommage à votre pièce, L'heureux stratagème de Marivaux. Un thème assez éloigné du quotidien d'Eva Rock. Bref, changeons de sujet. C'est un vrai faux. Vous répondez chacun votre tour, chacune votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point. Sylvie Testu. En Asie du Sud-Est, sur l'île de Bornéo, une coutume étonnante. Un couple qui vient de se marier n'a pas le droit d'aller aux toilettes pendant 3 jours. Vrai ou faux ?
Oh, faux. C'est impossible.
Ne pas aller aux toilettes pendant 3 jours ? Est-ce possible ou pas ?
Moi, je dis que c'est impossible.
Morf, vous n'avez jamais passé un week-end avec Jérôme Lacroix ?
C'est sûr.
Réponse vraie !
Mais quelle horreur, hein.
Ils ne doivent même pas se laver, ne pas utiliser les toilettes. La famille les surveille, car s'ils le font, une malédiction s'abattra sur leur union.
Ils ne boivent pas, donc ?
Ah, ça,
puis aller aux toilettes, c'est
mais
aussi...
Oui, en tout cas, la réponse était vraie.
Eh bien, on refuse.
Eva Rock. Laurence Ferrari interdit à son mari, le violoniste Renaud Capuçon, de mettre son violon dans la chambre où il dort. Vrai ou faux ?
Non, c'est faux. Il a le droit de mettre son violon dans la chambre.
Eh bien, c'est vrai. En tournée dans les hôtels, son violon est toujours au pied du lit. À la maison, il est dans une pièce juste à côté. Il faut dire que pour Renaud, je cite, « c'est comme une rencontre humaine, comme lorsque j'ai rencontré ma femme. » Forcément, ça n'a pas dû lui plaire à Lolo.
On est toujours chez Marivaux.
Et c'est court.
Et c'est court, c'est vrai. Une question, 3 propositions, vous répondez ensemble. Le pape italien Innocent III, au XIIIe siècle, a pris une décision importante concernant le mariage. Laquelle ? 1. Il a autorisé les futurs mariés à s'habiller autrement qu'en blanc. 2. Il a autorisé le mariage aux sourds et muets. Ou 3. Il a autorisé au couple, une fois marié, d'autres pratiques que la sacro-sainte position du missionnaire.
Je dirais qu'il a autorisé les couples à se marier avec une autre couleur que le blanc.
Moi, c'est votre réponse ?
Non, moi, c'est plutôt les histoires de missionnaires. Je pense qu'ils ont le droit de faire d'autres types de positions.
Alors, on va faire un petit point théologique
tout
rapide.
Ça, tout ça n'était peut-être qu'un rêve pour une sorte de... C'est nébuleuse.
Donc, pour Eva Rock, c'est comme ça qui est intéressant idée, pour nous dire. C'est pour Eva Rock. Donc, au XIIIe siècle, le pape...
Bah, ça me plairait, cette idée, écoute.
A réuni les évêques et il s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir foutre pour le prochain concile ? On va autoriser la levrette. C'est sorti de la bouche d'Anissé assez spontanément. Non, vous avez tort toutes les deux. Décidément, il y a pas
sourds.
Marqué dans ce... C'est effectivement, la décision d'Innocent III, il fallait absolument que les mariés expriment clairement leur consentement.
Ah,
en 1215, lors du 4e concile du Latran, vous connaissez tous, l'impulsion d'Innocent III, on estime que le consentement par signe est clair et valable. Merci Innocent. Eva Rock, là il va falloir marquer des points.
Hein. Oui.
La première fois que Marlène Schiappa a rencontré son mari dans un contexte professionnel, elle lui a proposé un verre d'eau. Il a dit oui, elle a répondu de se le servir lui-même. Vrai ou faux ?
C'est idiot dans les deux cas.
Marlène, si tu nous écoutes.
Non, mais...
Ne perdons pas des auditrices facilement, Eva.
Oh, c'est possible que ça soit vrai, cette histoire-là. Je dirais vrai.
C'est vrai. Elle l'a raconté dans Paris Match. Marlène avait 19 ans, elle travaillait dans un cabinet de recrutement. Son futur mari est arrivé pour postuler. Proposition de verre d'eau, mais comme elle était occupée, elle lui a dit de se servir lui-même à la fontaine à eau.
Oui, c'est bien.
C'est pas bien. Le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, c'était
con.
C'était con. C'était con.
Ce qui est bien, c'est qu'elle le relève. Oui. Elle le soulève. Oui. Elle s'en souvient.
Elle s'en souvient.
C'est lui qui doit s'en souvenir. Sylvie Testu, c'est la dernière question. Attention, car je crois qu'Eva a un point.
Un point.
Sylvie Testu, la personne avec laquelle je suis actuellement en couple dans ma vie, se produit tous les vendredis, samedi et dimanche soir au Crazy Horse. Vrai ou faux?
Faux.
Faux. C'est seulement les vendredis et samedi. Elle fait relâche le dimanche.
Yes.
Elle vous embrasse. Égalité dans ce quiz. C'est bien ça en régie? Égalité. J'aime
quelle
beaucoup.
Escroquerie.
Comment ça, quelle escroquerie? J'embrasse
16
ma campagne.
18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Je vous laisse nous parler de cette photo des Clash, 40 ans après.
Je ne suis pas venu seul aller entrer les copains. Parce que vous connaissez tous cette pochette, le bassiste des Clash, Paul Simonon, qui fracasse littéralement son instrument sur scène à la fin du concert. Image devenue iconique, comme on dit, pour se donner des grands airs dans les livres d'histoire. Alors moi, personnellement, c'est une image qui m'a toujours un peu fasciné et effrayé. Fasciné parce qu'à côté, quand même, j'embête le système. Voilà.
J'embête le système. Vous êtes vraiment, mais
je suis
vraiment
rebelle.
Rock jusqu'à l'os. Voilà. Il a pas peur des mots. Hein. Il embête le système.
Et en même temps, c'est une image qui m'a toujours un peu effrayé parce que ça coûte cher. Une basse.
Oui, moi c'est la première réflexion que je me fais, je suis vraiment baroque. Moi.
Et là donc je découvre les amis que cette photo a pile 40 ans, ou quasiment jour pour jour, c'était le 21 septembre 79, c'était dans un club à New York, c'était le Palladium. Et je vous propose à cette occasion un petit questionnaire, vous pouvez jouer aussi à la maison. Alors première question, est-ce que vous savez qui a pris cette photo?
Aucune idée.
Philippe Manœuvre.
Et ben, dans un monde de mecs rock'n'roll, et ben, c'est une femme qui est derrière l'objectif. Ouais. Elle s'appelle Penny Smith. Elle vit toujours aujourd'hui. Elle vit à Londres. Alors à l'époque, elle a 30 ans environ. Elle suit des Clash comme ça en tournée. C'est déjà une photographe très réputée. Elle a look un peu Patti Smith, avec les longs cheveux noirs, le costard noir en toutes circonstances. Alors pour la petite histoire, elle n'aime pas trop cette photo au départ parce qu'elle la trouve un peu prise à l'arrache, un peu floue, un peu mal cadrée. Et c'est Joe Strummer, le chanteur des Clash notamment, qui va insister pour prendre cette photo et la mettre en pochette de l'album London Calling. J'ai une deuxième question. Est-ce que vous savez ce qu'est devenue la basse en question?
Bah, elle doit être chez un collectionneur et elle doit valoir $1 million.
Dans un musée, non?
Pas mal, Eva. Elle existe toujours. Alors, est-ce que Paul Simonon, il a été pris de remords à la fin du concert et qu'il a récupéré les miettes de la basse? Eh bien, elle est effectivement aujourd'hui sous cadre et elle est exposée régulièrement à travers le monde. Elle le sera très bientôt à Londres, au Museum of London, à partir du 15 novembre prochain, puisqu'on fera une expo pour les 40 ans du London Calling des Clash. Alors, je ne sais pas si vous imaginez quand même, si à l'époque on avait dit à Paul Simonon, quand il est sorti de scène en cassant sa basse, t'inquiète pas, ta basse elle est toute cassée, mais je te promets que dans 40 ans elle sera exposée au Museum of London, je crois qu'il n'aurait pas cru. Je pense que Margaret Thatcher elle aurait fait une attaque aussi, parce que oui, c'est quand même tout le symbole de cette photo, c'est la jeunesse qui est en rébellion à l'époque contre le conservatisme. Et puis j'ai une dernière question, c'est le bassiste Paul Simonon, qu'est-ce qu'il devient?
Eh ben, il est droite. Il a pris sa carte au Tea Party.
Alors, il est toujours assez rebelle, mais il a 63 ans aujourd'hui. Faut pas trop lui parler de cette histoire, hein, Paul Simonon.
Pourquoi?
De basse, parce que ça le saoule un peu. Je pense que effectivement,
parce qu'on le retient que de ça de lui. Finalement.
Il a donné des milliers d'interviews. Alors aujourd'hui, il dit qu'il est peintre surtout. Il joue toujours de la basse. On le voit notamment en concert avec Damon Albarn sur plusieurs de ses projets. Et puis il promène son chien. Paul Simonon, il l'a dit au journal Le Monde cet été, et moi j'aime bien cette idée que à 20 piges, on puisse fracasser une basse sur scène, et que 40 ans plus tard, on promène son chien tranquille.
Effectivement, c'est une belle leçon de vie, Jean-Philippe Ballas.
Ah, Sylvie Testu est pas...
Sylvie Testu préférait l'époque rock 1000%. Que l'époque chien, visiblement, hein, Sylvie.
Moi, ça peut m'angoisser, cet arrêt. Comme ça. Mais bon, chacun le voit comme il veut. Hein. Moi, j'aime bien ce moment où on a l'impression qu'on va jouer pour la dernière fois. Quoi. Il y a un côté, c'est vrai, rebelle là-dedans, mais il y a un endroit où, à chaque fois que vous montez sur scène, c'est ça qui fait les grands artistes, c'est qu'ils ont l'impression que c'est la dernière fois. Ils cassent tout. Bon, ben, on verra demain où on se procure la nouvelle. Bon. Il savait très bien, mais j'aime bien quand même.
Il y avait peut-être un petit peu de drogue aussi là-dessous, hein, on ne sait pas. Il est
alors
pas tout
ça,
à fait lucide.
Moi, j'aurais jamais imaginé une chose pareille.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Avec chaque jour un invité pour jouer le rôle d'arbitre dans cette compétition cadrée par Mathieu Noël. Il était parmi nous, Zep, à l'occasion de la sortie du tome 2 de sa BD pour adultes, Happy Sex.
Vous connaissez mon éthique journalistique, je me suis fait un devoir de lire votre BD en entier. Ça n'a pas été très difficile, on s'est régalé avec Eva. Vous ne vous êtes fixé aucune limite hein, dans cette BD. Vous n'avez pas de tabou.
Bah non, enfin, si on aborde ce sujet, il ne faut pas en avoir. Sinon, c'est justement le problème. Je trouve que ça reste un sujet qui est, même si on voit beaucoup plus de pornographie, même si on en parle beaucoup plus, parler de notre propre sexualité reste compliqué. C'est pas dans nos rites sociaux de parler de sexe. Alors on peut en parler au bureau, au bistrot, mais dans le couple, on en parle assez peu. On le fait, mais on n'en parle pas forcément ni avant. Il n'y a pas de débriefing après.
Ça serait bon un débriefing après.
C'est pas dans les usages. Ce qui fait qu'on a tendance à rentrer dans des pratiques sexuelles un peu qui deviennent routinières ou à développer chacun des fantasmes qu'on n'ose pas forcément partager avec l'autre. Tout ça est un peu trop sérieux souvent. Donc ça fait on a un besoin urgent de rigoler de notre sexualité, je pense.
Quand on sait la pression qui pèse aujourd'hui, notamment sur les jeunes en termes de taille, de durée, de souplesse, hein, c'est pas mal de prendre un peu de recul et de rappeler justement la dimension récréative, ludique que doit être le plaisir à deux. Ça, on l'a un peu perdu de vue. Peut-être.
Oui, parce qu'on est dans la culture de la performance avec le porno, surtout chez les mecs. C'est très dur d'avoir, par exemple, des confidences de la part d'hommes, parce qu'on est toujours dans cette culture de la performance et les femmes sont plus généreuses pour raconter ce qui s'est vraiment passé. Et puis, c'est vrai que c'est le terrain de jeu des grands, quoi, la sexualité. C'est peut-être le dernier endroit où on a le droit de s'amuser, de jouer un rôle, de s'inventer des histoires. On n'a plus tellement l'occasion de jouer aux cow-boys et aux indiens. Donc c'est l'endroit où on est censé s'amuser, mais malheureusement, c'est rarement le cas. Enfin, on est quand même vachement dans un truc... c'est un sujet qui est souvent trop sérieux, je trouve. Il y a une pression qui est trop forte. On a une attente souvent qui est trop élevée aussi.
Vous parliez de jouer aux cow-boys et aux indiens. Elle joue toujours le rôle de Pocahontas quand on joue tous les deux. Eva Rock.
N'importe quoi. Est-ce que vous avez eu des réactions de vos copains à la sortie du premier album Happy Sex il y a 10 ans?
Ah ben ils cherchaient à quelle page ils étaient en fait. Ils disaient, mais c'est moi là, non?
Mais c'est les discussions avec les gens autour de vous qui vous ont inspiré aussi pour l'album 2 ou pas du tout?
Alors il y a quelques personnes, quelques amis, mais plutôt des amis en fait, qui me racontent leur vie, notamment tout ce qui se passe sur ces sites de rencontres où il y en a qui sont très actifs là-dessus. Pas moi, donc je me suis basé sur leurs histoires. Et puis... oui, j'aime bien aussi placer des... Comme il faut trouver beaucoup de personnages, hein, chaque histoire, c'est de nouveaux personnages. Donc, il faut créer une centaine de personnages. Alors, je mets des fois des tronches de copains, mais sans les prévenir.
Oh, ça doit être tellement bon pour eux quand ils le découvrent.
Surtout s'ils sont pas avec leur femme.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
60 scènes de la vie sexuelle en 2019, des moments de kiff, des moments de lose aussi. Et là, je me tourne vers ma consoeur Eva Rock. Eva, qui est trop pudique pour le dire à l'antenne, mais comme elle l'a dit un jour hors antenne et que les micros tournaient quand même, on va pouvoir l'entendre. La morale de cette histoire, c'est toujours bien choisir sa playlist avant de commencer un câlin.
J'avais un fantasme absolu de faire l'amour sur Kate Jarrett. Le jour où j'y arrive enfin, le morceau il est horrible. Et je me suis levée d'un coup, j'ai défoncé le... Pas le mec, mais le... Le poste. Non mais ça tu le récupères pas.
Ah non, je ne le récupérerai jamais, on ne le diffusera jamais. Eva, qui était ce partenaire, on peut dire son nom
non,
peut-être?
Ah bah non, sûrement pas.
Ah non, on ne révèle
non,
pas
non, non. Bon. Mais est-ce que Zeb, vous êtes d'accord qu'il faut avoir la bonne playlist pour avoir des pratiques sexuelles réjouissantes?
C'est assez casse-gueule la playlist, parce que ça veut dire qu'on doit déjà présupposer du timing.
Exactement.
Ça peut être un peu blessant parce que si ça s'arrête, je suis désolé, je pensais que ce serait fini là, mais on passe au big bisou de Carlos. Je pense que c'est assez dangereux quand même. Moi, je suis pas tellement partisan de la playlist.
Zeb, vous dites aujourd'hui, quelqu'un qui ne réussit pas sa sexualité ne réussit pas sa vie. Il y a une pression sociale très forte, d'où le besoin. Mais non, mais il fait un constat. Il dit pas que c'est bien. Vous inquiétez beaucoup nos chroniqueurs, Zeb. Non, mais c'était important du coup de décompresser dans une période où peut-être plus que jamais, on a une pression sociale très forte qui nous incite à être performants, nous les hommes spécifiquement, mais vous les femmes aussi, à jouir et à savoir trouver les chemins de l'orgasme. Il fallait décompresser avec une BD.
Décomplexer aussi.
Bah oui, il faut. Enfin, on sait que pour l'homme, l'éclat de rire en pleine action, c'est rarement. Enfin, ça aide pas beaucoup, quoi. Ça fait débander. Mais des fois, il vaut mieux se marrer et reprendre un petit peu plus tard. Ouais, je pense que on met trop de sérieux. Il y a trop d'attentes. On est ce culte de la performance, il nous bousille. Et surtout, on trouve de plus en plus de tutoriels aussi sur Internet. C'est absolument hallucinant.
Oui, mais pour, ça, c'est plutôt pas mal.
Alors, c'est pour pas mal dans qui... l'intention, oui. Mais après, dans l'application, si vous voulez, c'est les ça tutos Internet. Mécanique. C'est comme le gars qui a une guitare depuis une semaine, il sait jouer un morceau et il fait un tuto. Et non, il ne faut pas. Il faut d'abord que tu testes si vraiment ça marche.
Oui, moi, je me posais la question, parce que moi, je ne suis pas un homme, mais est-ce que le culte de la performance...
Scoop, enfin.
Est-ce que le culte de la performance ne diminue pas avec l'âge, malgré tout, et l'expérience? Le souci, l'inquiétude?
Oui, bah, j'espère. Bah normalement, oui, parce que l'expérience fait qu'on se rend compte que ce n'est pas là-dessus que...
Mais est-ce qu'on n'a pas chaque début d'histoire, quand même? Est-ce que ça ne se répète pas?
Bah ça, je sais pas, moi je...
Bah, c'est toi qui t'es marié récemment.
Je sens que ça soulève beaucoup de questions très personnelles, ce débat. Sur la facilité justement avec laquelle on a aujourd'hui accès au sexe numérique, vous dites, il est intéressant de noter que l'âge moyen de la première relation sexuelle, qui n'avait fait que baisser au cours du siècle passé, a tendance à remonter un peu ces 5 dernières années. Le sexe virtuel est si accessible et si facile qu'il a rendu cette génération un peu moins pressé de passer à la réalité.
Ouais, ça, c'est incroyable, un constat ça. Étonnant. C'est-à-dire que ce que la morale, l'Église a essayé de faire pendant des siècles, pour finir, c'est les jeux vidéo qui l'ont fait. Quoi. C'est que pour finir, c'est quand même plus cool d'être sur son canapé et puis et se taper Lara Croft plutôt que d'aller essayer de rencontrer quelqu'un en vrai et puis te suer des râteaux.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Mathieu Noël entouré de son acolyte Eva Rock et des journalistes d'Europe 1 en chaque après-midi dans une compétition et c'est au tour maintenant d'Axel de Tarlé d'entrer en piste, il est face à André Manoukian.
La compétition, ou plutôt devrais-je dire, vu le sujet qui vient, la compétition. En effet, Axel de Tarlé, vous nous révélez aujourd'hui, statistiques à l'appui, le palmarès des langues les plus bankables, celles qui sont susceptibles de nous offrir plus tard des bons salaires. Vous, par exemple, vous avez fait espagnol LV2.
Cuando vamos a crear Europa numéro 1.
LV3 plutôt. On vous écoute. Comme disait Claude François quand il essayait de maximiser sa pénétration à l'international.
Escucha, ça c'est la fin, tiens.
Dès que je peux la placer, je la place. C'est à vous, Axel, on vous écoute.
Voilà, donc c'est une enquête faite par OpinionWay pour la plateforme Babbel. Il faut toujours citer, vous savez.
Ses sources.
Ses sources, exactement. Et donc, il s'est interrogé quelles sont les langues qu'on maîtrise et qu'on peut faire valoir auprès, d'abord pour décrocher un emploi ou pour décrocher une augmentation de salaire. Donc, vous allez voir votre patron et oh, je parle parfaitement ça. Ah, oh, ça m'intéresse beaucoup, tenez, je vais vous surpayer, etc.
Alors, j'ai essayé, Cardo Lagardère, ça n'a pas marché.
Quelles sont les langues les plus utiles et pour décrocher un emploi, une promotion, etc.
Bah, il ne peut pas y avoir de surprise, c'est forcément l'anglais. Enfin, quand on est en France,
alors, pas
par
du
exemple.
Tout.
Le chinois.
Pas du tout, vous avez tort. Donc, les langues les plus bankable, comme on dit, sont des langues très peu parlées en France, mais qui nous servent beaucoup parce que ce sont de gros partenaires commerciaux.
Donc, les chinois.
Non, il y a une énorme diaspora chinoise en France, ce qui fait que c'est assez facile de trouver des gens qui parlent chinois.
D'accord,
il faut des
langues
qui sont peu parlées. Eh bien, vous avez par exemple l'italien. L'italien, il n'y a que 8% des Français qui parlent l'italien. Et c'est notre troisième partenaire commercial.
Incroyable.
Donc l'italien, il y a 1000 filiales italiennes en France. Donc si vous savez parler italien, vous allez être très recherché. Une autre langue d'un grand partenaire commercial, c'est le russe. Personne ne parle russe en France. Très petite diaspora. Et c'est quand même un gros partenaire commercial.
Maria Gavariou Parouski, Voilà. Heureusement, j'ai fait du russe. Mais alors, attendez, j'appelle Arnaud Lagardère en direct, parce que c'est vrai qu'il ne sait pas sur mon CV, j'avais pas mis, je parlais voilà. russe. Peut-être que je peux gratter quelques euros.
À l'inverse, l'anglais, si vous allez voir votre patron, dites donc, je parle anglais, ça mérite une augmentation de salaire. Pas du tout.
Tout le monde parle anglais.
Et d'ailleurs, c'est un prérequis. Il faut parler anglais. 84% des cadres disent qu'ils utilisent l'anglais. Mais ceux qui parlent italien, tout m'intéresse.
quel acteur aussi.
Et la langue du chant aussi, naturellement, l'italien.
Oui, c'est vrai, belle langue.
Et alors, pour terminer, un petit conseil pour nous Français, apprenez l'italien et on va commencer tout de suite avec un petit cours.
Ebbe successo questa cronaca di Axel di Tarle. Bravo, complimenti.
Voilà. C'est un truc qui dit que la chronique d'Axel de Tarlé était fantastique. Non,
et qu'il faut voter pour elle.
Et qu'il faut voter pour elle.
Voilà, c'est première leçon d'italien, vous pouvez me remercier.
Bravo.
On vous remercie. Grazie mille, comme on dit là-bas, mon cher Axel de Tarlé. Vous connaissez néanmoins la règle, elle peut tomber à n'importe quel moment. Voici la question vache de l'autre chroniqueur, Ève Roger.
Alors, donc, comme je savais que c'était l'italien, parce que je suis très érudite, je voulais vous demander comment. Est-ce que vous savez comment dire en italien je veux une augmentation, justement?
Une augmentation.
C'est pas si mal. C'est pas si mal.
C'est quoi?
Puisque c'est voglio un aumento.
Mais comment savais-tu que c'était l'italien? T'avais triché? T'avais soudoyé quelqu'un?
Non, vous tutoyez
maintenant. Les journalistes se tutoient, ça y est, il y a une complicité qui est en train de dans ce studio.
Plus, c'est le russe la langue la plus parlée, la plus demandée.
Quand on a l'oreille absolue, c'est facile de parler d'autres langues, André Manoukian. Vous êtes polyglotte?
Oui, en fait, c'est l'oreille absolue, c'est vraiment quand on reconnaît les notes. Enfin, l'oreille relative, c'est l'oreille qu'ont tous les musiciens.
Vous avez laquelle?
Moi, moi, j'ai la relative. L'absolu, je ne l'ai pas. Mais c'est presque un handicap d'avoir l'absolu, parce que tout d'un coup, quand des morceaux sont entre deux tonalités, les gens souffrent. Mais bref, c'est avec l'oreille que ça se passe. Et c'est vrai que, par la, j'allais dire, apprendre une langue, c'est mieux d'avoir des bonnes oreilles. Oui, c'est ça.
Bravo en tout cas, Axel de Tarlet. Axel, c'est quoi votre petit secret pour être polyglotte?
Ah bah moi, je regarde Narcos, c'est tout en espagnol.
Estupendo, très bon conseil.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Il nous donne rendez-vous tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 pour 2 heures de bonne humeur, pour se divertir et s'informer en même temps. C'est Mathieu Noël, à ses côtés Eva Rock, l'invité là du moment, c'est l'auteur Titeuf de... Oui, l'auteur de Titeuf, c'est Zep donc. Et nous avons Lionel Gougelot qui va nous parler de ses entreprises qui facilitent la sieste au boulot.
Je crois que je vais avoir besoin d'un café, je suis en train de tomber.
Vous aussi, vos employés manquent de tonus, et si vous leur faisiez faire une sieste, comme en maternelle? Certaines entreprises ont déjà franchi le pas. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, il faut se détendre, fermer les yeux, sauf si vous êtes en voiture, évidemment, puisque Lionel, vous nous emmenez faire la sieste à Roubaix, ouais, dans une salle de sieste mise à disposition des 200 salariés d'une ruche d'entreprise. Expliquez-nous le concept.
Alors, c'est une idée de la société Ilobed, bed comme lit, hein, évidemment, qui conçoit et qui commercialise des matelas. Et sa fondatrice, Chloé Bonin, eh bien, elle a eu l'idée toute simple d'ouvrir cette salle de sieste dans le bâtiment Blanche-Maille à Roubaix. C'est un bâtiment qui regroupe toute une série de start-up pour le bien-être des salariés, mais aussi pour faire tester son produit.
En fait, on s'est dit, mais pourquoi pas en faire profiter tout l'écosystème de Blanche-Maille? Et c'est pour ça qu'on a ouvert cette salle de sieste. Et donc, tout le monde peut venir profiter de la salle de sieste en réservant un petit créneau sur un calendrier en ligne. Nous, notre concept, c'est de vendre un sommier et un matelas. Après, tout ce qui est linge de lit, on l'a mis en place pour la salle de sieste. Et après, les gens peuvent profiter d'un petit thé, d'un petit magazine, d'un masque de sommeil. On a aussi proposé des playlists à charger sur son portable.
Des playlists? On peut s'endormir en musique, Lionel?
Oui, tout juste, notamment avec ça. Tiens, écoutez. Bon, alors...
Eva dort déjà. C'est non, plutôt cool. Perdu.
C'est plutôt cool, mais figurez-vous que c'est là-dessus que s'endort Benjamin. Alors, Benjamin, il est chargé de projet web marketing dans une boîte qui se trouve juste à côté, à l'étage de la salle de sieste.
Mais c'est vrai que c'est de se dire qu'en fait, on va vraiment dormir. Il faut juste se laisser aller, en fait. Après 20 minutes de somme, on est reparti pour 2 heures, 3 heures, sans trop de difficultés. Donc c'est vrai qu'avoir la petite salle à côté qui permet de concrètement recharger les batteries pour en plein milieu de journée, c'est pas mal. Ouais.
Quand vous partez faire une petite sieste, là, les collègues, ils vous regardent pas quand même un peu de travers?
Non, et quand même, personnellement, je... Au contraire, ça les fait plutôt rire qu'autre chose.
Mais est-ce que ça marche vraiment, Lionel?
Bah, oui, ça a l'air de séduire de plus en plus de salariés, même si en France, on va pas se mentir, hein, ça reste quand même une histoire de feignant. Eh bien, Chloé, elle pense qu'on devrait prendre exemple sur d'autres pays.
En Chine, on vous dirait que si vous faites pas la sieste au travail, c'est que vous avez pas été suffisamment efficace, vous n'avez pas bien travaillé, donc il y en a qui font semblant de faire la sieste pour montrer à leur patron qu'ils travaillent bien.
Pas mal, hein?
Oh, c'est pas mal.
Alors en plus, c'est, évidemment, tout le monde le sait, c'est bon pour la santé. Figurez-vous que j'ai lu dans une étude suisse, mon cher Mathieu,
mais
que
ça, c'est une très bonne source.
Deux siestes par semaine réduiraient de moitié les risques cardiovasculaires. Bon, je ne sais pas si c'est très scientifique,
mais,
tout ça.
Mais bien sûr, puisque c'est suisse.
En tout cas, c'est avec tout ça, nos patrons ne nous installent pas une salle de sieste à côté de la salle de rédaction. C'est vraiment une plus rien à comprendre.
Eh bien, figurez-vous qu'on en a une, mais alors il n'y a pas des matelas aussi confortables que ce que vous décrivez, mon cher Lionel.
Enfin voilà, Ilobed, donc c'est à Roubaix.
Merci Lionel Gougelot, vous êtes notre correspondant dans les Hauts-de-France. La sieste, solution miracle pour les employés au bout du rouleau. Mathieu Charrier, c'est pas pour vous, hein, vous êtes solide comme un roc.
Moi je prends jamais de vacances,
bah oui.
Je suis une machine. Non, vendredi je suis pas là par contre.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est votre rendez-vous bonne humeur quotidien, chaque après-midi de 16h à 18h, Mathieu Noël, avec sa complice Eva Rock, nos journalistes en compétition et toujours des invités. Alors on va retrouver Anne Le Gall, cette fois notre expert environnement. Elle est face à la chanteuse Rose qui était venue nous parler de son album Kérosène.
Je vous présente Anne Le Gall, notre expert environnement, qui réussit à garder le sourire à chaque nouvelle étude du GIEC.
Ouais.
Insouciance ou stoïcisme, l'avenir nous le dira. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, ma chère Anne?
À l'occasion de la Fashion Week, je vais vous parler des dessous un peu moins glamour de la mode. Et c'est vrai que l'industrie de la mode,
ça, voilà, l'industrie de la mode, ça c'est autre chose.
L'industrie,
hein,
de la mode, ça n'est pas que podium et paillettes. Il y a des chiffres qui font peur. Il faut savoir que l'industrie textile, dans son ensemble, génère autant de gaz à effet de serre que le trafic aérien et le trafic maritime réunis. En plus, ça va de pire en pire, puisque on consomme de plus en plus de vêtements. On en achète 30 kilos chacun en moyenne en France. Mais
attendez,
il n'y
avait
an.
Pas ce truc de la slow fashion. Moi, j'achète beaucoup moins qu'avant. Hein.
Oui, mais alors,
c'est pas en train de changer.
Et ben alors,
moi, c'est le slow salaire aussi. Hein, parce que moi aussi, le slow salaire. Alors, j'achète beaucoup moins qu'avant aussi.
Mais voilà. Et pourtant, alors en moyenne, c'est 4 fois plus que dans les années 80. Aujourd'hui, on achète 4 fois plus de vêtements que dans les années 80. Et il faut savoir aussi que la moitié des vêtements produits dans le monde ne sont jamais portés. Le rythme des collections va tellement vite qu'en fait, les vêtements n'ont même pas le temps d'arriver en rayon, même pas le temps d'être achetés, qu'il faut déjà changer de collection. Donc, il y a un vrai problème. Mais il y a aussi une prise de conscience. Et ce gâchis des ressources fait bondir de plus en plus de Français, et notamment Aline, que j'ai rencontrée, jeune quadragénaire parisienne, élégante, qui n'achète plus de vêtements neufs du tout, ou quasiment plus. En tout cas, son budget fringue se limite aujourd'hui à 150 euros de textiles neufs par an.
La plupart de mes vêtements sont soit des vêtements que j'ai échangés avec des amis, que j'ai récupérés de ma grande sœur ou que j'ai chiné dans des friperies. Encore plus maintenant avec tous les sites en ligne de vide dressing, etc. Justement, les fashionistas en gros achètent et jettent au bout de quelques jours ou quelques semaines. Donc en fait, même si on a envie d'être à la mode avec 3 semaines de décalage ou 3 mois de décalage, il n'y a absolument aucun problème. Et c'est évident que ne pas de nouveau produire tous ces vêtements, ça ne peut que aller dans le bon sens.
Et je vous jure qu'elle était élégante, Aline. Absolument.
Mais on veut bien le croire.
Et ce défi, donc, de plus en plus de Français le relèvent. Il y a un défi qui s'appelle Rien de neuf, qui consiste à ne plus du tout acheter d'objets neufs. Alors, ça concerne les vêtements, mais pas que. Il y a 23 500 personnes inscrites en France à ce défi Rien de neuf. Et on va économiser énormément de ressources, parce que rien que pour faire un jean, par exemple, on va économiser 32 kilos de matières premières et 8000 litres d'eau.
Tout ça pour qu'ils nous aillent super mal à la fin, comme d'habitude.
Évidemment. Et en plus, pour les délaver, tout ça, je crois que ça pollue beaucoup.
Ah,
c'est
si
vraiment...
on fait une projection de sable ou qu'on le mouille prématurément, ça consomme énormément d'énergie, effectivement, en plus.
C'est bien joli tout ça, mais pour chiner des vêtements d'occasion, il faut avoir du temps.
Mais vous avez raison, il faut avoir du temps et des boutiques près de chez soi, c'est un petit peu la limite, puisque l'offre pour l'instant est assez limitée. Mais les habitudes bougent et ça change tellement vite qu'il y a des études qui montrent que dans 10 ans, le marché de l'occasion dans le vêtement aura dépassé celui du vêtement neuf.
C'est une bonne nouvelle.
Le problème dans tout ça, Rose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que la tentation est sous nos yeux tout le temps. Pour qui habite une grande ville, Paris, Nice, enfin, la tentation est partout. On a envie de rentrer pour voir les nouvelles collections, non ?
Mais oui, Mathieu, mais bien sûr. Alors, si on est complètement féru de vêtements neufs, qu'on ne peut pas s'empêcher d'acheter, au moins, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est acheter davantage de choses qu'on aime et de qualité. Comme ça durera plus long.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Chaque jour, du lundi au vendredi, entre 16h et 18h sur Europe 1, nous donne rendez-vous pour son rendez-vous bonne humeur. On s'informe, on se divertit avec Mathieu Noël et toute son équipe, avec l'équipe est sauvage. Il y a Eva Rock et puis il y a des invités. Alors, celle qui suit, elle est comédienne, on l'a déjà entendue depuis 16h. Elle a joué dans le 3e opus de la trilogie des Visiteurs, sortie en 2016. Mais en ce moment, elle est à l'affiche du théâtre Édouard VII, puisqu'elle est à l'affiche de la pièce de Marivaux.
Et si tout va bien, eh bien, il devrait ouvrir une pizzeria dans sa ville de Houille.
Monsieur Houille. Okay. Oui, parfois ça, c'est grave. Oui, Sylvie Testu, vous étiez la sœur de Robespierre dans Les Visiteurs 3. Vous voilà la comtesse dans L'Heureux Stratagème au théâtre Édouard VII. C'est une pièce de Marivaux. Sans trop en révéler, évidemment, parce que ça fait partie du jeu, mais en quoi consiste le stratagème? Le début de celui-ci, en tout cas.
Oh, le stratagème, ça consiste dans le fait de faire que la comtesse soit moins pleine de certitudes, qu'elle ne traverse pas la vie comme elle en a envie, en se servant des gens comme elle le souhaite. On va dire ça comme ça, pour ne pas dévoiler la fin.
Oui.
Mais en fait, au départ, il y a quand même deux losers et deux sortes de winners, on va dire comme ça, enfin de gagnants. Et à la fin, ça s'inverse quand même très clairement. Ce qui n'est pas fait pour me plaire. Je préfère le début de la pièce.
Il y a aussi la langue de Marivaux dans cette pièce que certains vont découvrir. C'est un plaisir pour une actrice de
oui, c'est un plaisir. Alors au départ, c'est vrai qu'on a tendance à se méfier. Parce qu'on ne peut pas éviter les élisions, on ne peut pas éviter les nœuds, enfin bon, voilà, il faut être très très clair. Parce que pour faire passer le texte, ça peut être compliqué. Mais en revanche, c'est un peu comme de la musique, il faut aller avec et pas se battre contre. Dès que vous sortez du texte, le texte vous dit « sors, dégage, on ne comprendra donc rien de ce que tu diras ». Il faut vraiment être super précis. Mais en fait, à l'intérieur de ça, on trouve une vraie liberté. Et moi, par exemple, parfois, on me dit « Ah, mais dis donc, t'arrives à être très contemporaine. » Si c'est pas moi, c'est le texte.
C'est le texte.
Si vous ne le faites pas résonner comme dans voilà, comme dans une chapelle. Finalement, c'est un texte qui est assez, assez contemporain. Il est élégant, mais il passe parfaitement.
Un mot, Sylvie Testu, sur votre palette. C'est rare qu'une actrice soit aussi à l'aise dans le théâtre du XVIIIe siècle et dans des films d'auteurs plus pointus ou dans des grosses comédies type Les Visiteurs. On a l'impression que vous êtes chez vous partout, crédible dans tous les registres. La polyvalence, c'est quelque chose que vous avez cultivé. Vous vous êtes dit, dans ma carrière, je vais toujours faire des choses différentes, ou c'est juste en vous, en fait, cette polyvalence?
Non, je pense que c'est en moi, ça m'angoisse, en fait. Dès que je sens que je me sclérose, enfin, qu'il y a quelque chose qui devient une mécanique, un truc comme ça, ça m'angoisse. Mais toute ma vie est comme ça, c'est-à-dire je déménage tous les 2 ans, je ne sais pas, je vois un truc.
Mais c'est horrible.
Alors c'est horrible pour les gens autour de moi, là, super. Mes enfants me regardent avec un œil sombre. Mon conjoint, pareil, on déménage plus maintenant. Là, maintenant ça fait seulement 1 année que je suis là, attendons. Parce que pour l'instant je cherche encore l'interrupteur le jour. Où je le trouve dans le noir.
C'est que c'est le moment de déménager. On parlait de polyvalence au chapitre Secret Star. Il paraît que vous avez même des talents d'imitatrice et qu'il ne faut pas trop vous pousser pour que vous imitiez Vanessa Paradis ou même Eddie Mitchell. Eddie Mitchell?
Oui. Enfin, c'est pas que je l'ai mis.
Ceci, allez-y.
C'est que je m'amuse. Mais il fait comme. Tu peux préparer le café noir. T'es une blanche, j'aime même ton mouvoir. C'est bien ou pas?
C'est excellent. Bah,
je faisais mourir de rire mes sœurs.
Justement, tout de suite, la réaction d'Eddie Mitchell. Alors, Eddie, ça t'étonne, hein?
Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul.
Ah, voilà. Je crois qu'il a. Il a
ça
apprécié.
Fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Il dirige la revue Ciel et Espace, mais ça ne l'empêche pas d'être abonné à Playboy. C'est comme vous, André, un hédoniste qui aime les étoiles, mais aussi les lunes. Parfois d'ailleurs, il arrive... Mais c'était pas la meilleure, celle-ci. Parfois d'ailleurs, il arrive que ses chroniques dérapent.
Est-ce qu'on fait l'amour aux extraterrestres? Ils ont plein d'orifices, donc c'est génial.
Eh oui, on comprend mieux maintenant pourquoi E.T. parlait comme ça. Il avait mal au périnée. Supputation. Voici Alain Sirou. Alain, aujourd'hui, vous nous emmenez à l'église. Ça, c'est incongru.
Oui. Après l'incendie de Notre-Dame, donc l'heure de la restauration approche. Et la grande question, c'est effectivement comment restaurer. Et est-ce que la restauration va avoir une incidence sur le son et en particulier sur, je dirais, l'acoustique de la cathédrale? Alors, il faut savoir de quoi on parle quand on parle d'acoustique d'un lieu. L'acoustique, c'est le produit de tous les éléments qui composent le lieu, c'est-à-dire à la fois la pierre, le bois, le verre, dans leur forme, bien sûr, l'espace, bien sûr, leurs propriétés matérielles, bien sûr. Et on peut parler de paysage sonore, l'équivalent d'un paysage virtuel, en quelque sorte visuel, qui nous intéresse. Donc depuis plusieurs années, 2 équipes de chercheurs français, CNRS, se penchent sur la manière de recréer l'acoustique des sites historique.
Ça ne concerne pas que Notre-Dame.
Pas du tout, absolument pas. C'est déjà depuis quelques années. En 2013, ils ont enregistré un concert, réalisé des mesures acoustiques de chaque espace à l'intérieur de la cathédrale. On va rester sur Notre-Dame, donc comme une couleur, une texture, et créé un modèle 3D qui permet aux visiteurs de voir, d'entendre le son. Et la façon dont il varie dans l'espace, comme lorsque vous vous déplacez dans les travées, au milieu de la nef, dans les petits coins. Je vous propose d'écouter ce que cela donne à partir d'un concert donné pour le 850e anniversaire de la cathédrale.
Dire que le son est bon dans une église?
Non, là, le son n'est pas bon pour cette formation orchestrale. Il y a beaucoup trop de réverbération.
Oui, réverbération.
Et ce qui fait qu'on je vous voyais faire des visages un tout petit peu bizarres. Et c'est vrai que tout d'un coup, on est dans un brouhaha et on n'est pas du tout dans une salle faite pour un orchestre symphonique.
Mais vous êtes en train de vous déplacer. Vous êtes en mouvement dans un paysage 3D, puisque la cathédrale a été virtualisée en quelque sorte. Ça, c'est le travail de la première équipe. La deuxième équipe, elle travaille sur la notion d'archéologie du paysage sonore. Et ça, c'est absolument fascinant parce que c'est réalisé à partir de sources historiques. Les peintures, les gravures, les archives permettent d'identifier une multitude d'objets sonores, bien sûr, qu'on peut intégrer à ce modèle-là, mais aussi intégrer dans le modèle virtuel aussi bien des objets comme les rideaux, les tapis, les meubles, qui eux-mêmes vont influencer en quelque sorte la façon dont le son se propage. Et en fait, c'est la réverbération de tous ces sons qui va s'installer dans le modèle et on va pouvoir fabriquer
une cathédrale virtuelle du 18e, du 16e, du 15e siècle. Et surtout, et c'est là le grand projet, et c'est là la façon dont les deux équipes vont se confronter, quand un architecte va vouloir installer quelque chose de nouveau dans la cathédrale, eh bien, on va pouvoir à la fois imaginer en son et le réaliser, voir ce que ça donne et voir si finalement les grandes orgues, par exemple, qui ont été installées dans la nef, seront plus proches du modèle initial tel qu'il a été construit il y a quelques siècles qu'aujourd'hui. Donc, ça permet d'estimer l'impact des travaux, les choix de rénovation. Et comme disent les concepteurs, l'idée que les orgues résonnent à nouveau dans une acoustique qui soit la plus proche de celle pour laquelle elles ont été construites, est extrêmement importante.
Moi, je dis qu'il faudrait quand même demander conseil à André Manoukian sur ce projet. Oui. À mon avis, on pourrait gagner beaucoup de temps. Hein.
Non, moi, je suis complètement iconoclaste à ce niveau-là. Il faut faire l'acoustique qui soit la meilleure qui soit. Ça ne sert à rien. C'est comme si on voulait faire du vin comme au temps des Romains. Et à ce moment-là, on va rajouter du plomb et du miel. Ouais. Et ça sera juste imbuvable. Il y a des, je veux dire, on s'est habitué à une certaine qualité d'écoute maintenant. Alors par contre, pourquoi ces églises, elles étaient monumentales et tout ça, c'était formidable parce qu'au autrefois, il n'y avait pas de sono. Donc, tout d'un coup, la voix du prêtre peut... Exactement. Quand vous êtes dans des choses acoustiques, c'est formidable, une église. Quand vous êtes que dans des chœurs, c'est formidable. Dès que vous commencez à mettre des timbales et des cuivres, alors là, ça devient la cacophonie, quoi.
Merci beaucoup, Alain Sirou. Mais vous n'y couperez pas. Voici la question vache de l'autre chroniqueur, Emmanuel Dutheil. Vous avez quelque chose à dire sur ce sujet, vous qui n'avez... Non, c'est pas que vous avez l'oreille absolue, c'est que vous n'avez pas d'oreille du tout, visiblement.
Oui, j'ai aucune oreille, mais enfin bon, ça ne m'empêche pas d'être pas totalement idiot quand même. non mais, parce que ma question que je commençais à avoir en tête, elle découlait de ça finalement. À quoi ça sert? Est-ce que le son était à l'époque, à ce point-là, bon pour qu'on ait vraiment envie de le reproduire aujourd'hui?
Non, je pense qu'on est plutôt dans une archéologie. Mmh. Le mot archéologie sonore est intéressant. Il y a une chose que vous pouvez faire, c'est d'écouter des enregistrements anciens, par exemple d'un train, d'un avion, de choses du quotidien d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et vous allez vous rendre compte que vous ne viviez pas dans le même monde sonore. Et ça, c'est quelque chose qui est très perturbant parce qu'il n'y a pas de musée du monde sonore, sauf peut-être, effectivement, ces grandes œuvres qu'on écoute.
Non, on le vit avec les voitures électriques demain, peut-être qu'il n'y aura plus le bruit de voiture. C'est vachement intéressant.
Et en fait, intégrer le son comme un élément indispensable de notre univers, encore une fois, de notre espace-temps, est quelque chose auquel on peut être
sensible. Vous allez certainement marquer des points, vu qu'Emmanuel Dutheil, qui était censé vous descendre, vous a posé une question qui finalement...
Mais non, parce qu'on voit que malgré tout, je suis un bon camarade.